Chapitre 7. Les foins. Le travail de la faucherie allait échapper à Gilbert. La faucheuse était achetée. Vers la fin de mai, on l'avait vue avec ses roues et son siège peint en vermillon, ses dents de scie bien aiguisées, son timon portant la marque de fabrique du vendeur, amenée comme une statue de procession sur un camion, à travers les campagnes, qui observent toujours et se taisent le plus souvent. Alors le journalier, l'homme que la ruine de Marie Lureux tenait éveillé toutes les nuits, avait demandé à faire sa journée avec les sarcleuses que Fontenaille envoyait dans les blés déjà grands. Elle passait, prenant chacune l'une des voyettes étroites que les rigoles creusent entre les planches semées. Elles allaient lentement, attentives à ne pas froisser les épis, courbées, une main derrière le dos, tenant un paquet de mauvaises herbes, enfonçant l'autre, ça et là, dans la houle de la moisson jeune, partout où pointait un chardon, un pavot, un bleuet, un brin de veste des semailles anciennes, ou le bouton aigu d'une nielle déjà prête à s'ouvrir. Il gagnait peu. Elle se moquait, non pas toutes, et elle jalousait l'homme qui prenait le pain des femmes. Il sentait cette déchéance passagère. Aussi ne s'arrêtait-il point de travailler, comme elle, quand, au bout des sillons, elle se redresse, la poitrine tendue au vent, et qu'elle bavarde un peu, cherchant à deviner l'heure qu'il est. Mais il se relançait dans le fourré du froment, pressé de fuir et de cacher sa barbe entre les murailles vertes que chaque jour exhaussait. Il songeait surtout à sa fille et à la honte qui était venue. Mais il ne savait pas tout son malheur. Les femmes le savaient, et cependant, aucune n'avait encore osé dire « Gilbert Cloquet, tu as mal surveillé tes enfants de la ferme de l'Épine. » Car l'huissier, le dernier jour de mai, a passé dans les étables avec son papier, il a passé dans l'écurie, mais une partie des bêtes avait été emmenée avant son arrivée, et il ne les a pas prises en note. Tu ne les as pas rencontrées, Cloquet, mais tout le monde a connu qu'elles étaient dans le bois. Une des juments, la plus belle, la noire, trois vaches et quatre brebis, gardées par un mauvais gars engagé sur les routes. Ils ont juré, ton gendre et ta fille, oui, juré qu'ils ne cachaient rien, et ce sont des menteurs, et bientôt, quand la vente sera faite, ce seront des voleurs. Il ne savait pas, il n'était point retourné à l'Épine depuis que sa fille l'en avait chassé. Elle était venue lui demander pardon et de l'argent. Comme il n'avait que le pardon à donner, elle n'avait pas reparu. On était en juin. C'est l'été d'avant la moisson, où la terre est toute vêtue. Autour de Fontenaille, et sur la croupe des coteaux, et sur le double versant des prés qui descendaient au lac et qui s'ouvraient à peine, comme des livres oubliés, ayant un ruisseau bleu au milieu, l'herbe foisonnait. Elle était mûre. Un soir, Michel de Meximieux fit appeler le chef de culture, et montrant la longue bande de prairies qui montait vers le sud, entre la lisière des bois et la haie d'un champ d'avoine, il dit « Ce sera pour demain. Vous enverrez deux hommes pour faire la tournière et couper les épines avant 5 heures. » Le dernier jour de l'herbe se leva. L'aube était claire. La longue prairie commençait à 30 mètres du château, montait doucement, suivait la courbe de la forêt, dévalait la pente de l'autre côté de la colline, au-delà d'un alisier découpé en plein ciel. Aucun rayon ne touchait encore l'alisier, ni les chênes qui veillaient à la lisière du bois. Mais l'herbe avait senti le jour. Une vie prodigieuse et muette la soulevait. Les boutons d'or, groupés en larges taches, étendaient leurs pétales que l'ombre avait redressés. Les pissenlits épanouissaient le faisceau de leurs épées jaunes. Les marguerites, que la nuit ne ferme point, tournait toute la tête vers le soleil qui allait venir. Un souffle chaud exaltait dans les graines innombrables, dans les épis, dans les grappes et les hélices, dans les ombelles et les cosses, l'huile parfumée qui enveloppe le germe. Le vent léger, courant par risée comme sur une mer calme, se poudrait de pollen et s'imprégnait du goût de la sève. La longue nappe ondulait. Pas une tige n'était froissée, pas une seule n'était morte, mais la couleur des vagues disait la moisson mûre. Elles étaient brunes, elles étaient grises, Elle luisait comme de l'argent, et des reflets couleur de sang s'y mêlaient à la rouille des choses qui ont duré. Quand les deux domestiques entrèrent au bas de la pièce, par la barrière blanche, une perdrix, qui avait son nid dans l'herbe, s'envola. Un loriot s'éleva d'un chêne de bordure et se laissa porter au vent, l'aile ardente du soleil. Un râle de genêt se faufila entre les touffes et remonta dans le fourré en jetant son cri de crapaud, et il y eut alors un silence d'épouvante dans le monde des bêtes que l'herbe avait logées, qui avaient grandi avec elle et cru en elle. Les grillons eux-mêmes se turent une seconde. La faux traçait une avenue, et la serpe pointait les ronces au bord de la grande prairie. Il faisait chaud à 9 heures. La barrière s'ouvrit de nouveau. 2 chevaux noirs entrèrent, attelés à la faucheuse. Où étaient les gens de Fontenay, ceux qui avaient crié contre la machine et ceux qui avaient sournoisement rompu le marché conclu avec Gilbert Cloquet et fait acheter la faneuse, l'ennemi qui arrivait, éclatante, vermillonnée, roulant sur ses roues neuves, derrière les chevaux résignés? On ne voyait personne dans le champ d'avoine. La forêt laissait pendre ses feuilles molles de chaleur, et un seul homme avait passé, depuis l'aube, un berger remontant la colline vers la pâture où M. Fortier engraissait ses bœufs blancs. Qui allait conduire la faucheuse? Ah, si on avait su! Tout le bourg eût été là. Ce fut Michel de Meximieux qui sortit du château, en vêtements de toile blanche, coiffé d'un chapeau de paille, et monta sur le siège de fer, au-dessus de la barre coupeuse. Renard, qui tenait les chevaux, dit une dernière fois « Monsieur le comte voit bien qu'il n'y a pas de mauvais gars dans les environs. Fatigué comme il est, il ne devrait pas faire le travail d'un domestique. Moi-même, si monsieur le comte le permettait, je pourrais… » « Merci, Renard. Je crois bien qu'en effet, tous les propos qu'on m'a rapportés sont de pures inventions, mais il suffit qu'on ait crié. Je ne suis pas de ceux qui exposent les autres. » Il prit les guides de corde et il siffla. La rousseur du soleil courut sur les reins des chevaux en marche. Les dents de la scie s'engagèrent dans l'herbe, et l'herbe coupée se coucha, glissa sur le plancher de la machine, puis retomba toute luisante sur le sol, humide encore le long de la tige et rose près de la racine. Derrière la machine, qui allait sans une pause, avec un cliquetis régulier, elle formait un sillage, un long miroir de sève que la lumière enfin atteignait et séchait. Michel jouissait de la perfection de travail de la faucheuse et surtout de se sentir le maître qui travaille et plus près de sa moisson qu'aucun homme de sa race. Il avançait vite. Il rejoignit les domestiques qui étaient à peu de distance du sommet de la colline. « Laissez passer, » dit-il, « et tant pis, je fonce en plein foin, sans tournière. » Il sacrifiait quelques bottes d'herbe. Que lui importait? Tout allait finir pour lui avec l'année. Les chevaux fumaient de sueur. Subitement, l'un d'eux fléchit, s'abattit presque, se redressa d'un coup de rein. La machine s'enleva d'un côté, retomba, tourna comme sur un pivot, et le conducteur fut jeté à terre, à 3 pas dans le foin. La faucheuse était brisée. Michel se releva. Il courut aux chevaux et les arrêta. En même temps, 2 hommes se montrèrent debout à la lisière de la forêt, tandis que, de l'autre côté, dans le champ d'avoine qui n'était séparé de la prairie que par une haie, un autre homme se levait et criait « Bravo ! À bas les bourgeois !» Michel se tourna de ce côté, mais ne vit rien. Il marcha vers l'endroit où la faucheuse avait heurté contre un obstacle. Les 2 domestiques accouraient. Ils cherchèrent dans l'herbe. « Voilà, monsieur Michel, dit l'un d'eux, regardez !» Il tenait dans sa main le bout tordu d'un fil de fer qu'on avait dû, pendant la nuit, tendre entre 2 piquets et dissimuler dans l'herbe haute. « C'est encore un supiage, Paris » cria-t-il. « Mais oui, c'est lui qui était caché dans l'avoine. Je l'ai reconnu. Je cours après. Cassez la machine. Ah, il va voir !» dit l'autre. « Ramenez les chevaux, » dit Michel, en arrêtant l'homme qui prenait déjà son élan pour courir. « Laissez Supia et les autres s'il y en a. Dans 2 jours, j'aurai une faucheuse neuve et je la conduirai comme celle-ci. Je vous charge de le dire dans le pays. » « Vous n'avez pas de mal, monsieur Michel ?»«
Non, très peu. »
« C'est que vous êtes blanc, vous avez l'air. »
« Ne vous tourmentez pas. Allez, mes amis, rentrez. »
À ce moment, une voix appela.
« Monsieur de Meximieux !»
Avant de s'être détourné, Michel avait reconnu celle qui l'appelait. Antoinette Jacquemin était debout au pied de la lisière, toute menue au sommet de la grande courbe du pré, et elle faisait signe.
« Venez, venez !»
Michel alla droit vers elle, à travers l'herbe haute. Les domestiques descendaient du côté du château, emmenant les chevaux et la machine brisée. Ah, elle avait bien choisi son heure, cette petite de la Vaucreuse. Fallait-il vraiment lui obéir? On pouvait encore s'arrêter, trouver un prétexte, revenir au château. Pourquoi ne pas la fuir? Qu'est-ce que je fais? Que peut-elle pour moi? Et que puis-je lui dire? Vais-je me plaindre de la ruine de mon père et de ce que Fontenay ne m'appartient plus? Elle n'en sait rien. Vais-je lui laisser voir que j'aurais pu l'aimer, que je l'aimais déjà? Je ne le puis plus. Et pour que je lui confie l'autre douleur, la troisième, celle qui me délivrera des autres, elle est trop jeune. Il faut que ses 18 ans restent joyeux. Prends garde, pas de larmes, pas de faiblesse. Et je me sens moins fort que jamais. Pourquoi vais-je donc à elle? Il allait parce qu'elle était la pitié et que personne ne le consolait. Il allait avec son secret qu'il ne dirait point, mais qu'elle devinerait peut-être. Il avait beaucoup changé depuis la visite à la Vaucreuse. Son visage s'était amaigri, l'expression trop ferme de ses yeux s'était corrigée par la souffrance. Ils avaient eu des visions qui les avaient laissés plus inquiets, plus tendres et voilés de brume. Antoinette Jacquemin le regardait venir. D'abord, elle s'était demandé. « Pauvre voisin, dois-je le plaisanter sur sa chute? Il ne boite pas. Il a seulement son chapeau enfoncé et du vert sur sa manche. » Elle était tombée de cheval plus d'une fois. Sa gaieté était prête encore mieux que sa pitié. Mais ce fut la pitié qui parla dès que Michel fut arrivé à cette distance où le regard peut se faire entendre, où les âmes commencent à se toucher par leurs antennes qui doutent et qui se replient.
« J'espère que vous n'êtes pas blessé, monsieur. »
« Non, mademoiselle. »
« Qu'y a-t-il eu? Pourquoi la faucheuse a-t-elle pirouetté? Une pierre ?»«
Un piège à bourgeois, mademoiselle. » Un fil de fer tendu cette nuit pour faire tomber mes chevaux et casser ma machine.
C'est affreux! Mais vous êtes tout pâle, monsieur! Quelle vilaine action! Quelle lâcheté! Moi, j'étais venu à Fontenay ce matin avec la carriole qui allait aux provisions. Je suis curieuse. Je voulais voir l'entrée en carrière de cette faucheuse dont le pays a parlé plus que de raison. Et puis, vous revoir aussi. Vous savez ma promesse. Asseyez-vous, monsieur, là, au pied de mon arbre. Non, je vous assure que vous avez besoin de vous reposer.
Non, j'ai besoin de serrer une main amie.
Alors, prenez la mienne.
Cet enfant maternel, habitué à consoler des chagrins qu'elle ne comprenait pas, Michel la retrouvait comme à la Vaucreuse. Elle le regardait avec une tendresse inquiète, les yeux grands ouverts, le visage tout doré par le reflet de ses cheveux, de son chapeau de paille et du matin qui rejaillissait des herbes. Elle ne disait rien, mais pour si peu de choses, elle aurait dit « Je vous aime » que Michel eut peur de ce silence où l'aveu grandissait trop vite. Il rompit le charme en s'écartant d'un pas. Les mains qui s'étaient unies se dénouèrent. Et ce fut un adieu qu'un seul des deux comprit.
Alors, j'ai bien fait de venir. Ce n'était pas une idée trop enfant, comme vous dites.
Non, une chère pensée profonde et opportune dont je vous remercie.
Je ne puis vous dire combien je suis ému de vous voir sur cette terre de Fontenay.
J'étais venu près de la barrière du château une fois déjà, il y a 8 jours. Je vous ai aperçu de loin. Mais j'étais avec Miss Margaret Brown, mon institutrice, et je n'aurais pas pu vous parler amicalement. À quoi bon la banalité d'un bonjour, la feinte d'une surprise et le regret d'en voir passer sans avoir été une âme qui pense et qui écoute ? À quoi bon, n'est-ce pas ?
Il recevait ces mots l'un après l'autre, comme des flèches qui s'enfoncent dans la même blessure. Mais il n'eut pas l'air d'avoir entendu et, reprenant sa pensée,
« Oui, vous avez eu raison de venir, puisque je peux vous montrer moi-même un peu de ce domaine dont j'aime la moindre motte. Voyez cette longue prairie qui va vers la maison. C'est presque une vallée, n'est-ce pas ? Comme la pente est modelée noblement.
Et toute fleurie. Demain, elle sera moins belle. Avec le foin qui tombe, il y a quelque chose de caressant qui s'en va. Moi, je ferme les yeux quand on fauche à la Vaucreuse. C'est une saison chez nous qui change le paysage. Nous n'avons pas cette grande ligne de futaie.
Vous l'aurez un jour.
Une semblable ? C'est impossible.
Qui sait ?
Moi, je sais. Il faut des siècles, il en faut un au moins. Quel âge ont vos chênes ? Celui-ci et l'autre qui a des branches mortes pour les ramiers ?
160 ans et 200 ans. C'est mon grand-père qui les a semés.
Nous sommes depuis moins longtemps à la Vaucreuse. Ici, le temps a fait son œuvre. Votre château est enveloppé à moitié par les bois, et il me semble...
Elle désignait du geste le toit de vieilles tuiles moins élevé que les bois.
Il me semble qu'à l'automne, quand il est tout couvert de feuilles mortes, il doit faire partie de la forêt. Ce n'est qu'un vieux chêne de plus.
Aimez-le, je vous en prie.
Mais oui, je l'aime, comme tout le pays.
Soyez celle qui ne quitte pas ses terres pour Paris.
Faut-il le jurer ? J'y suis toute prête.
Ne riez pas, ne le prenez pas en plaisantant. Je vous parle plus sérieusement que vous ne le pensez. Je vous en prie, mademoiselle Antoinette, comme si j'étais un frère aîné, de rester dans ce pays où votre nom est respecté, où, personnellement, vous êtes populaire. De ne pas le maudire parce qu'il est plus malade que bien d'autres pays de France, mais de faire pour lui ce que nos parents n'ont pas su faire, d'y vivre. Rien qu'en l'habitant, vous y ferez beaucoup de bien, vous serez une vraie grande dame, un être de grâce et de miséricorde.
Je vous assure, monsieur, que ce serait mon ambition, celle sans doute de toute autre femme à ma place. Mais vous en parlez singulièrement.
Pourquoi ?
Comme d'une chose que vous souhaitez, mais que vous ne verrez pas.
C'est vrai, je ne le verrai pas.
Mademoiselle Jacquemin se pencha étonnée.
Vous ne serez plus là ? Où serez-vous donc ?
Michel sentit fixer sur lui le regard d'Antoinette et le sourire qui tombait, et l'inquiétude grandissante à mesure que le silence se prolongeait. Il fit effort pour contraindre sa voix qui refusait de parler. Son visage demeura tourné vers Fontenay lointain.
« Promettez-moi le secret. »«
Oui !»«
Je suis fiancée. »
Elle se recula à son tour, comme si la mort avait passé entre eux. Et elle se redressa toute. Une autre Antoinette était là, non plus une enfant, une femme blessée, irritée, aussi forte que lui dans la douleur d'amour. Non, elle ne pleurerait pas. Il ne pourrait pas mesurer le mal qu'il venait de faire. Très pâle, elle aussi, sa fine tête orgueilleuse rejetée en arrière et les paupières à demi baissées par le mépris, elle trouva les mots pour répondre, elle les jeta du bout de ses lèvres toutes blanches.
Je vous félicite, mais je ne vois pas pourquoi je suis avertie la première. C'est trop d'honneur, en vérité. Elle est jeune ?
Michel secoua la tête.
Elle est riche, assurément. Un Meximieux ne peut faire qu'un mariage riche.
Oui, elle a tous les millions qu'elle veut. Elle se baisse, elle les prend.
comme vous dites cela. Et elle vous emmène loin, puisque vous quittez Fontenailles ?
Très loin.
Ce sera bientôt ?
Michel ferma les yeux.
Je ne sais pas.
Vous êtes de plus en plus étrange. Excusez-moi, je vais rejoindre ma voiture qui m'attend au bourg. Et de ce que j'ai pu vous dire, ne retenez qu'une chose, la seule qui soit vraie.
Elle eut un petit rire nerveux qui mourut dans l'espace immense.
Je n'étais venue que pour vous répéter la phrase. Vous vous rappelez quand je disais que vous pouviez plaire. J'avais raison, vous voyez ?
Le bout du brodequin jaune frappait une touffe d'herbe et l'écrasait. Michel, alors seulement, eut le courage de regarder de nouveau Antoinette Jacquemin. Il la vit se reculer encore. Il lui dit lentement, car il prolongeait en même temps son supplice et sa dernière vision d'amour. « Ne parlez pas comme vous faites. Vous regretteriez ce que vous appellerez un jour votre injustice. Mais je vous supplie par avance, ne vous accusez pas vous-même, quand vous comprendrez et quand vous saurez tout. J'aurai trop de peine de vous savoir triste. Vous n'avez pas de tort vis-à-vis de moi, pas un seul. Je vous assure, ne me répondez pas, je vous en prie, que j'en en ai pas non plus vis-à-vis de vous. Vous avez été la première apparition délicieuse dans ma vie, et tout ce que vous m'avez dit, même vos reproches, tout m'a montré l'être de choix auprès duquel j'aurais passé. Je vous souhaite d'être heureuse infiniment. Adieu. Merci.
Adieu, monsieur. »
Elle demeura droite, muette et hautaine, jusqu'à ce qu'il eût rejoint l'avenue verte que la faneuse et la faux avaient taillée. Alors, voyant qu'il était loin et qu'il ne se détournait pas, elle s'approcha de la lisière, appuya sa main sur le tronc et, sa tête sur sa main, elle regarda diminuer, le long de la haie, celui qu'elle avait attendu dans la joie. Quand il fut près de la barrière du pré, elle espéra qu'il regarderait en arrière au moins une fois. Mais la barrière était ouverte, il passa. Antoinette s'aperçut que les arbres de Fontenailles tremblaient devant elle. Elle pleurait. Michel était troublé jusqu'au fond de l'âme. Comme beaucoup d'hommes d'une vie morale très forte et peu entourée, il avait coutume, quand il avait agi, d'examiner son acte et de se juger lui-même. Dans le fumoir où il s'était enfermé, il marchait à grands pas, les yeux fixés sur le parquet où son ombre le précédait d'une fenêtre à l'autre. Il fallait que je fusse abandonné. Je crois que c'est fait. J'ai pu lui dire, sans qu'elle comprît pourquoi, mon vœu suprême. Que ce pays ne pâtisse point de l'abandon de Fontenailles par tous les mecs si mieux. J'espère à présent. Elle comprendra. Les mots qu'elle m'a dit étaient enveloppés dans sa colère, dans sa fierté blessée, dans sa pauvre tendresse qu'elle a crue méconnue. Mais tout cela tombera. Comme elle a été forte! Quelle âme de femme déjà et d'héroïne en elle! Quelle dignité dans ce premier chagrin que je lui ai fait, moi! Moi! Ah, que je suis malheureux! Que je voudrais pouvoir pleurer! Mais je ne dois plus, j'ai promis. Pour s'empêcher de pleurer, il se donna des témoins. Il sonna le valet de chambre, puis, ayant changé de vêtements, il passa dans les écuries et s'informa des chevaux. Les hommes de la ferme de Fontenailles et les domestiques disaient « Il reprend goût à la terre ». Dès qu'il eut achevé de déjeuner, il sortit, comme il faisait autrefois, et s'engagea dans la grande avenue. Une puissance souveraine, celle de sa volonté ou celle de sa douleur, l'entraînait et le soutenait. Il marchait vite. Il montait sans s'essouffler, sous le soleil ardent, le chemin qui mène au bourg. C'était l'heure où la campagne dort dans la fanfare des moucherons. Quand Michel eut poussé la barrière à claire-voie de la cure et demandé, debout sur le seuil de la cuisine, « Monsieur le curé est-il chez lui ?» Personne ne répondit. Il répéta la question en reculant de deux pas jusqu'au milieu de l'allée de buis. Alors la fenêtre du premier étage entra en lutte avec une main qui cherchait à l'ouvrir.
Elle céda, non sans se plaindre. Le buste de l'abbé se pencha dans le soleil au-dessus de l'allée.
« Qui est là encore ?»« Ah, c'est vous, monsieur Michel. Philomène doit faire méridienne. Je descends. » »«
Non, monsieur le curé, je monte. Je puis monter aujourd'hui. »
Au bout du petit escalier de bois, il trouva l'abbé Roubiot, et celui-ci le fit entrer dans la chambre qui avait pour meuble 4 chaises, une table et la photographie de la vieille maman. Sur la table, un registre était ouvert, et il y avait à côté un carnet, entre les pages duquel l'abbé, avant d'ouvrir la fenêtre, avait glissé une feuille de papier buvard.
« J'ai appris l'incident de ce matin, » dit le prêtre. « Il a dû vous être très pénible. »
« Oui, 5 ans de bonne volonté récompensés de la sorte. »
« Oh, ne la jugez pas perdue, votre bonne volonté, monsieur Michel. Je suis sûr qu'elle a touché quelques-uns de ces silencieux qui vous entourent. Tenez, je suis sûr que vous avez déjà pardonné en gentilhomme. »
« Vous vous trompez. »
« C'est vrai? Vous leur en voulez encore ?»«
Non, vous vous trompez de terme, monsieur le curé. Laissez-moi vous dire que nous nous connaissons mal et que je le regrette. »
Vous avez eu peur, j'en suis persuadé, qu'on ne dit, ici, en Pays Bleu, que le curé était trop bien avec le château. Mais quand le château, c'est un homme de votre âge ou à peu près, un être sans mondanité et qui n'a pas une jeunesse folle, je vous assure, pourquoi le fuir? Tenez, si nous avions causé cœur à cœur 2 ou 3 fois seulement, tout à l'heure vous m'auriez dit de pardonner en chrétien. C'est le vrai mot. Pour moi, le type du gentilhomme, c'est le Christ. »
L'abbé se leva en hâte. Sa figure terreuse s'illumina de joie. Il tendit la main.
« C'est bien beau, ce que vous dites là. »
« Non, c'est la simple vérité, celle que vous croyez, celle que je crois. Mon rêve, comme le vôtre, eût été de les élever peu à peu jusque-là et de disparaître en laissant une œuvre plus grande que moi, d'être l'ouvrier qui a aidé à bâtir la flèche d'une cathédrale. Mais il faudrait plus de temps que je n'en aurai, à peine si on devine les fondations dans la boue. »
L'abbé Roubiot avait rapproché sa chaise de celle de Michel. À présent, il ne craignait plus. Il osait parler, il osait être. Son âme sacerdotale, son âme enthousiaste et naïve de séminariste aspirant à la conquête du monde, mais déjà douloureuse au souvenir des premières déceptions du prêtre, l'abbé Roubiot le laissait parler. Il avait joint les mains sur sa soutane. Il racontait ses projets anciens, du temps qu'il était vicaire dans le Morvan, et comment il les avait trouvés irréalisables dès le début de son séjour à Fontenailles. Il disait ses appels incompris, ses attentes vaines au confessionnal, au presbytère ou dans les chemins, quand il eut tant souhaité qu'on vînt à lui et qu'on passait. Il s'humiliait de n'avoir pas encore réussi. Il laissait entrevoir que sa sympathie pour ces gens était demeurée entière et que son espoir trompé reprendrait longtemps, toujours peut-être, son niveau, comme l'eau des puits qui vient de loin. C'était bien le fils de la mère Roubiot qui parlait, un enfant du peuple ordonné pour le salut des autres, chétif d'aspect, mais conscient de la grandeur de sa mission, et ambitieux comme un empereur, un de ces petits que le souffle d'en haut transfigure aisément et montre tout à coup dans leur familiarité avec le divin. Il s'enhardissait jusqu'à appeler Michel mon ami. Michel écoutait, avec la certitude maintenant qu'il était venu se confier à un être fort de l'élite obscure du monde.
« Croiriez-vous, dit l'abbé Roubiot, que j'ai un gros sacrifice à faire et que j'ai hésité? Pourtant, rien ne fleurit sans cela. C'est le fumier des terres éternelles. Nos joies, nos goûts, notre repos, belles tiges coupées, hachées, foulées aux pieds et qui nous font pitié, mais qui rejaillissent en merveilles toujours. J'ai été lâche. Croiriez-vous que mon évêque m'a demandé...
Quoi ?
De faire la quête pour le culte, dans Fontenailles. pauvre monsieur l'abbé. Il me l'a demandé deux fois. J'ai refusé. J'ai écrit « Je ferai l'annonce à la grand-messe. Je recevrai les offrandes que quelques-uns de mes paroissiens voudront bien m'apporter pour suppléer aux indemnités supprimées du concordat. Mais aller de maison en maison, c'est inutile. On m'accueillera bien presque partout, j'en suis sûr, mais on ne me donnera presque nulle part. » Qu'a répondu l'évêque ? Il m'a répondu « Qu'était, ne fût-ce que pour connaître votre paroisse. » Je suis parti. J'ai été voir moi-même mon évêque. Je l'ai supplié. Je lui ai dit « Mais quoi, je la connais, cette paroisse ? À quoi bon demander à ceux de ces hommes et de ces femmes qui n'assistent pas même à la messe, qui travaillent le dimanche, qui jurent comme des diables et s'amusent d'eux-mêmes ? Essayez de les prêcher ? Je veux bien. Les servir ? Oh, de tout mon cœur inemployé. Être leur ami incompris, bafoué, frappé peut-être ? Oui encore. Mais provoquer la réponse de l'indifférence ou de la haine et compter à chaque fois encore un qui renie son Dieu, encore un autre, c'est un supplice au-dessus de mes forces, Monseigneur. A-t-il eu la faiblesse de vous écouter ? Non, il m'a répété « Je vous donne l'ordre pour la troisième fois d'aller partout. L'heure est venue où il doit être demandé compte à la France de son baptême. Allez, mon ami, et ne craignez pas. » Et alors ? Vous voyez, je suis décidé, je prépare mes listes. Il y eut un silence. « Monsieur l'abbé, dit Michel, j'ai à vous raconter une histoire toute pareille à la vôtre. Moi aussi, j'ai eu peur du sacrifice qui m'est demandé. Il est aussi dur que le mien, oh, alors je vous plains. Plus, peut-être, mais je crois qu'à présent, depuis ce matin surtout, il est accepté. Je viens vous le confier pour être encore plus sûr que je l'ai fait. Monsieur l'abbé, je suis très malade. Mon ami, vous êtes un peu souffrant, il faut... désespérer, voilà la vérité. Mon médecin me l'a laissé deviner, je l'ai lu dans les livres de médecine, et d'ailleurs je le sens très bien. Ne me ménagez pas, ne niez pas, c'est inutile. Vous savez mieux qui je suis depuis une demi-heure. J'aurais voulu vous aider à refaire cette paroisse, j'aurais voulu racheter toutes les fautes qu'ont commises contre elle les Meximieux, toutes leurs négligences, leurs absences. J'aurais été juste et fraternel sans effort, il me semble. C'eût été le mieux, sans doute. Je n'aurai pas le temps. Monsieur l'abbé, dites-moi en toute vérité si vous croyez que l'acceptation de la mort qui vient soit puissante devant Dieu. » Infiniment, dit l'abbé, comme l'obéissance la plus difficile et la prière la plus sublime. Alors, puisque je n'ai pu donner mon exemple et mon cœur, je donne ma vie pour que Fontenelle revive. J'accepte ma mort. C'est tout ce qui me reste, monsieur l'abbé. Adieu. » Il essaya de sourire et il y réussit. Ses lèvres, qui venaient de nommer la mort, demeurèrent entr'ouvertes, héroïquement, ses yeux la virent et ne frémirent pas. Il eut l'air d'un page devant l'ennemi, ironique, aimable, léger, l'air qu'avaient eu les Meximieux à leur première affaire, quand ils sautaient à cheval, les trompettes sonnant, et qu'ils tiraient l'épée pour le service du roi. Pauvre jeunesse, il avait leur âge, il avait leur manière, il souriait lui aussi au danger imminent, mais il n'avait d'autre témoin qu'un prêtre de village. Il n'attendait point de gloire, et le roi, pour lequel il acceptait de mourir, n'en saurait jamais rien. Ce fut un beau geste de jeunesse, et qui dura le temps d'un salut. Puis les lèvres se détendirent. Pas un mot ne fut dit. Les deux hommes s'étaient levés. Ils se parlèrent encore un peu, du regard, comme ceux qui trouvent trop pauvres les mots pour exprimer l'intime de leur âme. Il n'y eut pas d'attendrissement, pas de consolation inutile. L'abbé reconduisit Michel jusqu'à la porte du jardin. Ils étaient aussi pâles l'un que l'autre. mais le moins troublé des deux paraissait être M. de Meximieux.
« J'irai vous voir, » dit l'abbé Roubiot.
« Ah, monsieur Michel, s'il y avait seulement un homme par château, un homme par paroisse !»
Michel était déjà à l'angle de la maison, sur la place. Il descendit la route. Quelques femmes, çà et là, levèrent, avec le doigt qui tenait l'aiguille, le rideau de leur fenêtre, et dirent
« Il vient de faire la partie avec le curé. Les riches, ça a toujours du temps à perdre. »
La chaleur passait sur la campagne par bouffées étouffantes et qui sentait le foin. La poussière sur le chemin s'élevait en tourbillon. Un nuage d'orage, tout blanc, avec des transparences de cuivre, avançait par écroulements successifs ses hautes tours au-dessus des bois. Michel regagnait son château. La fatigue l'accablait. Mais, pour la première fois depuis des années, il avait en lui la paix.